Frères et sœurs bien-aimés, j'aimerais méditer avec vous sur la deuxième lecture, la lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. C'est important toujours quand on lit la parole de Dieu de resituer le contexte dans lequel cet extrait, puisque c'est un extrait de la lettre qui nous est donné et proposé à notre méditation. Saint Paul s'adresse à l'église d'Éphèse qu'il a fondée et il parle d'abord du salut et de l'universalité du salut. Que le Christ apporte le salut tant désiré par Israël, non seulement à Israël lui-même, mais à toutes les nations. Et une fois qu'il a développé sa théologie du salut, il parle ensuite de l'application de ce salut à la vie sociale. Et en l'occurrence, le passage qui nous est proposé aujourd'hui parle de la question des relations entre hommes et femmes et singulièrement du mariage. S'il y a une grande différence entre le mariage tel que le conçoit l'Église et les autres manières de célébrer les unions dans les autres traditions religieuses. Dans les autres traditions religieuses, que ce soit les traditions monothéistes ou les traditions asiatiques ou les religions premières, etc., à chaque fois, le mariage était vu comme la bénédiction de la divinité, quelle qu'elle soit, sur les nouveaux époux. Et c'est vrai que pour le mariage, mais aussi pour les naissances, et aussi au moment de l'adolescence et au moment de la mort, ce sont les grands rituels qui scandent la vie humaine dans toutes les traditions religieuses. Et nous n'échappons pas, comme catholiques, à ces grands rendez-vous de la vie humaine. Maintenant, la différence avec la manière dont l'Église conçoit le mariage à la suite du Christ, et s'appuyant sur ces passages de saint Paul, c'est que ce n'est pas seulement la bénédiction de Jésus qui est donnée aux fiancés lorsqu'ils se marient, c'est l'application du salut que le Christ donne au jeune couple qui est en train de s'engager devant l'autel. Et quand je préside comme ça une célébration de messe de mariage, je pose la question au couple, mais de quoi avez-vous besoin d'être sauvé ? Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous demandez un salut au Seigneur. On a besoin d'être sauvé de multiples choses dans la vie matrimoniale. Déjà, de l'enfermement les uns sur les autres et ce manque de don, puisque le Christ et l'Église, c'est l'image d'un don qui est fait à toute l'humanité, mais bien d'autres choses que chaque couple connaît. Et au moment de célébrer leurs noces, demande au Seigneur de venir les sauver de quelque chose en particulier. Alors, c'est vrai pour le mariage qui est, soit dit en passant, le seul sacrement qu'on reçoit à deux. D'où la difficulté de la chose. Parce qu'il y a deux libertés qui s'engagent. Mais c'est vrai aussi de l'Eucharistie. Ceux qui vont s'approcher pour communier, ils demandent au Seigneur un salut. Et posons-nous la question, de quoi avons-nous besoin d'être sauvés si nous nous approchons de l'Eucharistie ? Maintenant, il y a une parole qui parfois fait grincer des dents et qui peut-être vous a aussi surprise. Femmes, soyez soumises à vos maris. Alors, dans la mentalité moderne, ça ne passe pas du tout. Maintenant, là aussi, c'est intéressant de resituer le contexte. De dire qu'au fond, d'abord, on est dans un contexte méditerranéen, dans un contexte où l'homme est le chef de famille, patriarcal. Et donc, d'une certaine manière, ce que dit saint Paul, là, pour les lecteurs, parce qu'il était en prison quand il a écrit cette lettre, pour ses lecteurs, ça ne posait aucune difficulté. En revanche, ce qui est certainement posé beaucoup plus de difficultés, c'est la suite. Et qui était beaucoup moins attendu. Autant ce discours-là était très attendu. Je veux dire, c'est le discours politiquement correct de l'époque. Mais ce qui suit est tout à fait novateur. Quand il parle des hommes, vous les hommes, aimez vos femmes à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte en la purifiant par le bain de l'eau baptismale. Que, au fond, le mystère du Christ et de l'Église, qui peut paraître, c'est vrai, un peu difficile à comprendre, et c'est vrai que pour les jeunes mariés aussi, de dire, ben, vous êtes un exemple, vous dites quelque chose de l'amour du Christ pour son peuple et pour toute l'humanité en vous mariant, parce que à travers ça, à travers votre engagement, il y a une expression de cet amour gratuit, mais aussi dans cette manière de concevoir les relations hommes-femmes. Il ne s'agit pas d'une relation de domination, on l'imagine, soumis dans le contexte dans lequel on lit, ça veut dire manifester. Hein, et de fait, c'est intéressant que la lettre commence par le respect pour le Christ, soyez soumis les uns les autres. C'est-à-dire, soyez dans l'humilité les uns face aux autres. Ne soyez pas dans une relation de domination. Hein, être soumis, c'est faire pousser l'autre au don de lui-même. Hein, le Fils est soumis au Père, mais le Fils n'est pas inférieur au Père, ça ne voudrait rien dire. Le Christ est soumis au Père, mais le Christ est l'égal du Père. Donc le Christ manifeste, donne le salut que le Père a attendu et a voulu manifester. Donc c'est intéressant de dire que, en fait, cette relation homme-femme, en prenant le modèle du Christ et de l'Église, ça peut paraître un peu parfois difficile à comprendre, mais en fait, de façon concrète, c'est: est-ce que je rentre dans une logique de don et d'humilité mutuelle? Est-ce que homme et femme, puisque c'est ce modèle-là que le Christ a choisi pour témoigner de son amour, modèle qui était déjà présent dans l'Ancien Testament, hein, vous vous rappelez, par exemple, le Cantique des Cantiques, etc., l'amour humain comme expression de l'amour divin. Mais là, c'est autre chose. C'est non seulement expression de l'amour divin, mais c'est expression du salut. Le salut que Dieu apporte en Christ se donne à voir quand un homme et une femme s'engagent pour toujours devant l'autel. Et c'est pour ça, entre autres, qu'il n'y a pas de divorce dans l'Église catholique. Il n'y a pas de divorce parce que l'union du Christ et de l'Église, dont les fiancés, le jeune couple et le témoin, évidemment, est de toujours à toujours. Alors c'est vrai que c'est une parole qui est dure à entendre. Hein, c'est dans l'évangile on comprend pas trop l'évangile si on n'a pas lu ce qui était avant. C'est tout à propos du pain de vie, de l'Eucharistie, etc. Bon, Jésus qui donne son corps à manger. Donc du coup, cette parole est dure. Hein. C'est vrai que c'est exigeant, et même quand Jésus parlera aussi du divorce, c'est quelque chose qui n'est pas facile aussi. Hein. Les apôtres vous disent, ben, est-ce que c'est vraiment avantageux de se marier si on a le droit qu'à une fois, d'une certaine manière. Mais je trouve que c'est ce qui fait la beauté du mariage à l'Église, et sa grandeur précisément. C'est que ce mariage à l'Église va être le signe, va révéler, va manifester quand les époux croient vraiment à ce sacrement, ils vont manifester quelque chose de l'amour de Jésus pour son peuple. Et dans l'union l'un à l'autre, dans l'humilité l'un à l'autre, dans ce fait que chacun puisse donner ce qu'il a à donner, il y a quelque chose de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ qui se donne à connaître pour toute l'humanité. C'est vraiment un grand mystère, c'est ce que dit saint Paul, c'est un mystère, c'est-à-dire que c'est un mystère de la foi. Tous les sacrements, nous le savons, sont les sacrements de la foi, hein, et on ne comprend, on accède à cette réalité qu'avec la foi et avec la grâce. Ce qui fait aussi que l'avantage, j'allais dire, du mariage à l'Église, c'est que le couple n'est pas livré dans un face-à-face, j'allais dire, de psychologie humaine plus ou moins équilibrée. Vous voyez, donc, alors que quand on n'a pas du tout de démarche religieuse, ce qui est le cas de la majorité de nos contemporains, en tout cas sous nos latitudes, quand on n'a pas de démarche religieuse, ben, on est dans le face-à-face, il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas l'ouverture vers une transcendance, vers plus grand que soi, vers un salut. On est livré à nos caractères, et on sait bien que nos caractères sont variants, sont difficiles, etc. Quand on s'engage devant l'autel du Seigneur dans l'Église, eh bien, il y a une espérance. Oui, nous pouvons avoir des défauts de caractère, nous pouvons être colériques, nous pouvons parfois être égoïstes, nous pouvons, bref, tout ce qui fait notre quotidien aussi. Mais nous avons une miséricorde, nous avons un pardon, nous avons une marge de progression. Nous sommes accompagnés par le Christ, et singulièrement dans le mariage, le couple est accompagné par le Seigneur pour que justement il ne se décourage pas, qu'il ne baisse pas les bras. Qu'il ne baisse pas les bras parce que, voilà, nous sommes faits de crevés de bosse. Nos psychologies, nos caractères, voilà, sont versatiles. Et on sait bien qu'en vieillissant, nos caractères s'épaississent et malheureusement, je veux dire, nos défauts, mais aussi nos qualités, mais aussi nos défauts s'épaississent et prennent peut-être plus d'ampleur. Mais justement, si je vis ma vie de couple dans l'union au Christ, dans l'espérance d'un salut, eh bien, il y a un vrai encouragement qui est donné aux mariés, un vrai encouragement. Le Seigneur ne vous laisse pas tomber comme le Christ ne laisse pas tomber l'Église. Ne vous laissez pas tomber l'un l'autre. Alors, on va demander cette grâce au Seigneur, parce que c'est vrai, ce que propose l'Église est une contre-culture, comme dans d'autres domaines aussi, et pas du tout, pour certains de nos concitoyens, en tout cas, audible. Elle est rude, cette parole. Ça pourrait s'appliquer tout à fait à ce que dit saint Paul. Mais à qui rions-nous ? Est-ce qu'il y a un autre chemin ? Est-ce qu'il y a un autre chemin pour le couple que celui de l'espérance et de la confiance ? Est-ce qu'il y a un autre chemin pour ceux qui veulent fonder une famille que celui de l'accueil mutuel dans l'humilité et dans un vrai lâcher-prise et un émerveillement mutuel ? Est-ce qu'il y a un autre chemin ? Alors oui, c'est rude. Oui, le Christ ne propose pas un chemin large et majestueux, non, c'est la voie étroite, c'est la porte étroite, c'est le chemin sinueux qui nous est proposé. Mais à qui rions-nous, Seigneur ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen.